Chapitre 13. Juin était venu, et la verdure, maintenant, la belle verdure des commencements d'été que le soleil n'a pas eu encore le temps de flétrir, couvrait tout le pays. Les roses fleurissaient sur le mur de mon logis, les résidas et les giroflées répandaient leurs arômes dans le parterre que Jacques Bardome m'avait arrangé, tout proche de la porte vitrée de mon petit salon. Car le brave garçon, aidé de son frère venu à Pâques en permission, avait repeint les boiseries de cette pièce, ciré le parquet, remis une vitre brisée. J'avais alors disposé là les meubles qui n'avaient pu trouver place dans ma chambre. Le petit canapé, les bergères, le secrétaire de bois de rose, la table à incrustation de cuivre. Au mur étaient pendus des portraits d'ancêtres. Avec l'aide de Jacques, très industrieux, j'avais drapé des rideaux de soie jaune à rayures bleu pâle, un peu fanées, autour des deux fenêtres que séparait une glace étroite, devenue verdâtre, encastrée dans la boiserie. Je me trouvais ainsi en possession d'un salon charmant où je m'installais pour travailler depuis qu'il faisait chaud. J'avais reçu quelques commandes du magasin de broderie auquel avaient agréé les modèles envoyés. Je cherchais des dessins nouveaux et, pour cela, je m'inspirais des fleurs, du feuillage que je voyais autour de moi. Mais ce travail ne me prenait pas tout mon temps. Je continuais à faire, près de Catherine, mon éducation de fermière et de ménagère. Puis je m'occupais des ruches que le propriétaire de la Sauvée était venu installer au fond du jardin. Très souvent, aussi, j'allais passer l'après-midi, soit chez Madame Mossette, soit chez M. Rouchaine. Chez l'un et chez l'autre, je me sentais bien accueilli, réchauffé par une sympathie affectueuse. Mais j'avais un faible pour lui, mon vieil ami, discret et serviable, pour sa maison ancienne et son jardin fleuri, qui sentait le tilleul, le jasmin et maintenant la rose. J'allais broder près de lui sous le grand marronnier, qui étendait son ombre devant le logis, ou bien dans la salle fraîche, d'où le soleil se retirait à midi. Nous causions paisiblement, gaiement parfois, car M. Rouchaine n'était pas triste et il avait un tour d'esprit fin, souvent amusant, sous sa bonhomie pensive, mais jamais méchant ou railleur. Il me disait « Vous êtes comme une fleur dans ma vie. C'est bon, quand on arrive vers la fin, de voir un joli sourire jeune, des yeux si beaux qui vous réchauffent un peu et qui ont l'air de s'intéresser au vieux bonhomme que je suis. » Je lui répondais, en pressant la main ridée couleur de terre brune, « Ils n'en ont pas seulement l'air, ils s'y intéressent vraiment. Et c'est moi, Monsieur Rouchaine, qui dois vous être reconnaissante à jamais d'accueillir avec cette bonté paternelle une orpheline qui sent si cruellement le vide laissé par l'absence de toute affection familiale. » Ainsi, jour par jour, se fortifiait une amitié que nous ne manifestions guère en paroles, mais que nous sentions tous deux, si confiantes et si sûres, au fond du cœur. Je la laissais paraître dans mes attentions filiales à l'égard du vieillard, et lui, avec le tact de la bonté véritable, savait me montrer discrètement que je lui devenais cher, comme une enfant qui eût été à lui. J'avais vu quatre fois M. de Trézonne à la Sauvée. Il était toujours courtois et même aimable à sa manière froide. Ses longs séjours à la campagne n'avaient nui en rien à ses allures d'homme du monde. Je causais littérature avec lui, j'essayais de rester naturel, comme si j'étais seul avec M. Rouchaine, de ne laisser rien paraître de cette gêne un peu tremblante, de cette émotion craintive que je ressentais toujours dans sa présence et que j'emportais encore en quittant la Sauvée. Je m'irritais ensuite de cette impression, je me promettais de n'être pas aussi sotte à la prochaine occasion. Et chaque fois, je subissais à nouveau l'influence du regard dominateur, si beau qu'un sourire assez rare éclairait parfois sans l'adoucir. Car M. de Trézonne n'était pas gai. Il parlait de la vie, de ses manifestations diverses, avec un scepticisme un peu âpre, avec le dédain amer de l'homme qui a goûté de tout et n'a trouvé que des illusions en cette recherche. M. Rouchaine disait, d'un ton de reproche discret, « Voyons, M. Guy, il y a tout de même du bien en ce monde, il y a tout de même de la vérité et de la bonté. » Le châtelain répondait, « Oui, puisque vous y êtes. » Ces deux hommes, si dissemblables d'allure, d'éducation, de nature, paraissaient unis par une amitié forte et silencieuse, car devant moi du moins, elle n'était pas expansive. mais on la sentait entre eux, on la voyait dans le regard du vieillard où l'affection grave se nuançait de respect, et dans les manières attentives, déférentes du jeune homme qui venait visiter ce solitaire et le traitait en égal. Un jour, comme je restais seul avec M. Rouchaine après le départ du châtelain, je lui demandai « Vous aimez beaucoup M. de Trézonne ?»« Oui, beaucoup. » Il ajouta, après un petit temps de silence, « C'est un homme qu'on ne connaît pas. L'apparence n'est rien chez lui. Il semble bien autoritaire et très dur. » Le vieillard secoua la tête en répétant pensivement « On ne le connaît pas. » Il parlait toujours fort peu des uns et des autres et je ne m'étonnais pas qu'il laissât sans réponse plus précise la réflexion que je venais de faire. Cependant, j'en conclus qu'il n'avait peut-être pas de protestation motivée à y opposer. La Saint-Jean tombait cette année-là un dimanche. Fête patronale du pays, on s'y préparait à l'avance et j'avais été réquisitionné par le curé pour grossir le cœur des chanteuses. Puis le bon prêtre, ayant constaté que ma voix était agréable et bien exercée, je dus accepter de chanter un solo à la grand-messe et aux vêpres. Deux jours auparavant, dans chaque maison du pays, on se mit à confectionner les gâteaux pour la fête. Catherine, quelque temps avant, m'avait montré à faire ces sortes de galettes, un peu épaisses mais savoureuses, qu'elle réussissait mieux qu'aucune femme des alentours. Comme elle souffrait d'une brûlure à la main et qu'Angélina était dans une période d'humeur hargneuse, un état qui lui devenait décidément presque habituel, je m'offris à pétrir la pâte. Puis, sur les indications de Catherine, je formais des gâteaux de plusieurs dimensions. Il y en avait pour les voisins, pour les amis. L'un d'eux était destiné au château. Catherine, un peu glorieuse, m'apprit que M. de Trézonne avait dit un jour « Je ne mange que de la galette de la Meulière le jour de la Saint-Jean, elle est très supérieure à celle que m'envoient mes métayers. » Comme je finissais ce travail, la petite fille du boulanger passa pour emporter les gâteaux à la cuisson. Je les lui remis et allai vers une terrine pleine d'eau où je lavai mes mains enfarinées. J'eus tout à coup une exclamation. Ah, j'ai perdu ma bague! C'était un petit cercle d'or orné d'une turquoise et de perles, bijou très simple, le seul que je portais habituellement et auquel je tenais beaucoup parce qu'il avait appartenu à ma mère. Après de minutieuses recherches dans la salle, il devint évident qu'ayant oublié de retirer ma bague, ainsi que je le faisais toujours pour ce genre de travail, celle-ci avait dû glisser de mon doigt, un peu amaigri, tandis que je pétrissais la pâte, et qu'elle se trouvait probablement dans un des gâteaux emportés par la petite fille. « Comme c'est ennuyeux !» dit Catherine. « Mais il ne faut pas vous tourmenter, mademoiselle Gillette. Si c'est ça, elle se retrouvera. Je préviendrai dans les maisons où je porterai les gâteaux, et comme c'est chez des gens honnêtes, on vous la rendra pour sûr. Quant au château, il n'y a rien à craindre. Ma galette ne va que sur la table des maîtres. Si la bague y est, monsieur le vicomte la fera rapporter ici. » Il serait mieux quand même d'avertir Catherine. On peut se casser les dents là-dessus ou même risquer de l'avaler. Vous avez raison, mademoiselle. Eh bien, Bardôme, en portant le gâteau, préviendra le maître d'hôtel. Cela réglé, j'allai m'habiller et me rendis à l'église où avait lieu l'avant-dernière répétition. Le chœur, pour la première fois, chanta à peu près juste. Mademoiselle Brunet, la fille du notaire, daigna écouter les observations que lui adressait l'organiste et contint les éclats d'une voix trop puissante. Enfin, tout alla bien et le curé, venu pour juger de l'effet, déclara en se frottant les mains que la fête serait fort belle grâce à nous, ses auxiliaires, et au châtelain qui avait envoyé des fleurs superbes pour la décoration de l'église. Le soin de cette décoration nous incomba encore le lendemain. Je rentrai tard, un peu fatigué par la chaleur orageuse, la tête lourde d'avoir respiré le parfum de toutes ces fleurs et entendu pendant 2 heures les voix et le petit orgue répéter les mêmes passages dans l'atmosphère moite de l'église. Pour la première fois, le lendemain, je remis ma robe bleu pâle. En jetant un coup d'œil sur la glace, je me trouvai une physionomie un peu différente de celle de l'année précédente. Je n'aurais su dire cependant ce qui était changé en elle. Mais je songeais avec quelque émotion « Il me semble que je suis plus jolie !» Catherine, quand j'entrai dans la salle où elle m'attendait avec sa fille, s'exclama en joignant les mains. « Que vous êtes gentille, mademoiselle Gillette. C'est rien de le dire. Cette robe-là, elle est de la couleur du ciel aujourd'hui. Et comme c'est bien travaillé, tu n'en ferais pas autant, toi, Angélina. Pensez, mademoiselle, qu'il a fallu payer 80 francs de façon à la ville pour cette toilette de carnaval qu'elle porte là. » Elle désignait la robe de soie corail qui habillait, ou plutôt déshabillait, sa fille. Les cheveux roux, du moins ce qu'il en restait, après avoir passé par les ciseaux du coiffeur, disparaissaient complètement sous une espèce de casque en paille couleur jaune d'œuf qui ne laissait guère voir que le nez, copieusement poudré, et les lèvres avivées d'un affreux rouge vineux. Un regard haineux me frappa en plein visage, tandis que la mère poursuivait, avec un peu de colère, « J'étais en train de lui dire que j'avais honte de la voir avec cette toilette-là, et elle... » Angélina l'interrompit d'un ton de fureur sourde. « Eh bien, j'irai seule si ça vous gêne. Je n'ai pas besoin de vous. » Et elle s'en alla. Sa démarche, assez disgracieuse naturellement, devenait grotesque, gênée par les très hauts talons des souliers fins qui lui comprimaient fâcheusement les pieds et l'obligeaient à marcher les genoux pliés car elle avait peine à tenir son équilibre. Catherine gémit. « Ah, si c'est possible tout de même, si c'est possible, qu'est-ce qu'on va dire dans le pays? A-t-elle l'air d'une honnête fille comme ça? Le père ne l'a pas vue encore avec cet attifement-là, mais il va se fâcher pour sûr. Et il n'aura pas tort. Mais pourquoi ne lui avez-vous pas défendu de s'habiller ainsi ?» Elle murmura, les yeux pleins de larmes. « Parce que ça n'aurait servi à rien, mademoiselle. Elle se moque de moi quand je dis quelque chose. Maintenant, c'est trop tard pour l'élever. C'est bien trop tard. » Elle soupira en essuyant ses larmes. Pauvre femme qui avait cru pouvoir récolter dans l'âme de sa fille ce qu'elle n'y avait pas semé. Cette petite scène m'avait émue et attristée. Était-ce pour cela que je chantais avec plus de chaleur fervente, ce matin-là, en arrivant à me distraire absolument de l'assistance qui remplissait l'église? Le chant est une prière, et j'avais besoin de prier pour Catherine, pour cette malheureuse Angélina, pour moi-même, qui me sentais parfois inquiète, troublée, sans en connaître la raison. La famille de Trézonne était à son banc, près du chœur. De la petite tribune où je me trouvais avec les chanteuses, je voyais ces dames, toujours très élégantes, et près d'elles, la haute silhouette aux épaules vigoureuses, la tête brune et altière. À côté du châtelain se trouvait un jeune homme plus petit que je ne connaissais pas. La messe terminée, je descendis et trouvai au bas de la tribune tous les bardômes. Nous sortîmes ensemble. Au passage, M. Rouchaine me serra la main en disant avec émotion « « Ah, que vous avez bien chanté! Venez demain, que je vous en complimente !» D'autres personnes m'arrêtèrent pour m'adresser leurs félicitations. Et quand je fus hors du porche, je vis M. de Trézonne se détacher d'un groupe et s'avancer vers moi. « Ma belle-mère et ma sœur seraient enchantées, mademoiselle, de connaître l'heureuse propriétaire de cette voix qui vient de nous charmer. Voulez-vous me permettre de vous présenter à elle ?» Je balbutiais je ne sais quoi. Madame de Trézonne et sa fille s'avançaient déjà. Elles se montrèrent fort aimables, me firent quantité de compliments, ainsi que les châtelains du voisinage qui s'entretenaient avec elles au moment où je sortais de l'église. La vicomtesse me présenta son fils, Paul de Trézonne, le sous-officier de chasseurs, en congé de convalescence à la suite d'une pneumonie. C'était un assez joli garçon, mais il perdait tous ses avantages près de la virile et hautaine beauté de son frère. En revanche, il me parut infiniment moins intimidant, car son regard était doux et ses manières fort empressées. Mademoiselle de Trézonne, qui semblait vive et enthousiaste, s'écria d'un ton de prière « Oh, mademoiselle, je serais tellement ravie si vous vouliez venir quelquefois chanter avec moi. Ce serait tellement amusant !» J'essayais de me dérober, mais Madame de Trézonne appuya la demande de sa fille, tout en consultant d'un regard déférent et craintif son beau-fils en face d'elle. Il avait semblé jusque-là inattentif aux paroles échangées près de lui, et ses yeux avaient une expression lointaine que j'avais déjà remarquée à la sauver. Il les ramena vers moi à ce moment, tandis qu'il disait, répondant ainsi à l'interrogation muette de Madame de Trézonne, Certes, nous serions tous charmés que Mlle Darbier voulût bien nous faire jouir de sa voix à la Bouteillerie, mais je n'oserais trop insister, car je sais sa vie si occupée que je craindrais d'être indiscret. » Mlle de Trézonne dit d'un ton suppliant : « Oh, Guy, insistez quand même, je vous en prie. Mlle Darbier a bien quelques instants de liberté. N'est-ce pas que vous viendrez quelquefois, mademoiselle ? Une fois dans la semaine, par exemple. » Je ne pouvais refuser plus longtemps. Il fut convenu que j'irais le jeudi suivant passer une partie de l'après-midi à la Bouteillerie. Après cela, je pris congé des châtelains et rejoignis les Bardômes qui m'attendaient plus loin. Les braves gens me firent part de tous les compliments qu'ils avaient déjà recueillis à mon sujet. Ils en étaient visiblement très fiers et je crois bien qu'ils me considéraient comme un personnage de plus grande importance maintenant que j'avais été remarqué de tant de monde et invité au château. « Dame, mademoiselle Gilette, c'est bien votre place, conclut Catherine. Vous avez l'air d'une petite princesse, même quand vous faites la fermière. Bien sûr que vous ne devez pas être embarrassée dans les beaux salons. » J'y serais fort ennuyée en tout cas. Je ne connais pas ces dames, nous devons avoir fort peu de goûts communs. En outre, j'ai tant à travailler. Cela vous reposera, vous distraira, mademoiselle. Et puis, là, vous pourrez peut-être connaître quelqu'un de votre monde, un monsieur très bien qui vous prendra pour femme. Je levai les épaules avec un petit rire contraint. Je ne songe pas à l'impossible, ma bonne Catherine. Dans notre monde, les filles pauvres ne se marient guère. Si, quelquefois, quand elles sont jolies. Alors, ce sont souvent de tristes mariages. Elles donnent leur beauté en échange de la fortune et se marient sans amour, quelquefois sans estime. Grâce à Dieu, j'espère n'être jamais de celles-là. » Catherine, obstinée, hocha la tête en marmottant que Mlle Gilette n'était pas de celles qui doivent rester vieilles filles. Angélina était rentrée avant nous. Au déjeuner, elle ne parut pas. La mère avait les yeux rouges. Bardôme essayait vainement de paraître gai. Après le repas, Catherine m'apprit que son mari avait fait une scène à Angélina à propos de sa toilette et de ses manières. Elle avait répondu avec insolence et comme son père l'a frappée, elle avait levé la main sur lui. Alors, Catherine s'était précipitée entre eux et avait entraîné son mari dehors. « Elle était comme une furieuse, mademoiselle. Elle nous a crié. Vous verrez si je me laisserai faire. Je mettrai les toilettes que je veux et je n'écouterai rien, rien. Quel malheur! Si on m'avait dit que ma petite Angélina deviendrait comme ça !» J'essayais de la consoler, je lui promis d'apaiser Bardôme qui disait « Si je la vois encore avec sa figure peinte, je lui donne une rouée de coups dont elle se souviendra. » Toutes ces légitimes indignations avaient le tort de venir trop tard. La faiblesse des parents, leur inconsciente vanité d'avoir une fille qui portait des toilettes de demoiselle, un relâchement dans la morale, dans les idées religieuses, produisaient ce triste résultat qui désespérait aujourd'hui les pauvres Bardômes, aussi coupables que malheureux. À 3 heures, je retournai à l'église pour les vêpres. L'assistance était moins nombreuse. Il n'y avait personne du château. Madame Mossette, à la sortie, m'emmena chez elle pour prendre un verre de sirop. Puis je revins lentement vers mon logis. La ferme était déserte. Tous les Bardômes, sauf Angélina, probablement toujours dans sa chambre, passaient la fin de la journée chez des amis et le valet avait congé aujourd'hui. Je traversai la cour et me trouvai dans le clos des pommiers. Un peu d'air coulait entre les arbres. Il était chaud encore, mais il me parut bon après cette journée orageuse. J'ôtai mon chapeau et m'assis sur un vieux banc entre 2 pommiers. Je me sentais fatigué, je souffrais de la tête et cette petite halte dans la tranquillité du clos ombragé ne pouvait que m'être favorable. Je me trouvais là depuis 10 minutes, pensant à la pauvre Catherine, à Angélina, à la visite que je devais faire à la Bouteillerie, quand un chien aboya dans la cour et tira sur sa chaîne. Je pensais « La maison est fermée et Angélina est là. Elle peut se déranger pour voir qui arrive. » Et je ne bougeais pas. Après une journée fatigante, j'éprouvais une sorte de bien-être un peu torpide dans l'appétit tiède de cette fin de jour. Il me semblait que je ne pourrais jamais me lever, franchir la courte distance qui me séparait de mon logis. Mais un pas foulait maintenant l'herbe du clos derrière moi, car je tournais le dos à la cour. je songeai tout à coup. Si c'était un cheminot! Et il me vint à l'esprit des récits entendus, des récits terribles. Je me levai, me détournai, déjà tremblante d'effroi, et jetai un coup d'œil inquiet sur l'arrivant. Dans la lumière du couchant, je vis le visage fier de M. de Trézonne et ses yeux volontaires qui me regardaient. Il se découvrit en continuant d'avancer. La clarté encore chaude de joie sur ses cheveux bruns, qu'il portait un peu longs et qui ondulaient légèrement. Il passa entre deux pommiers et s'arrêta à quelques pas de moi. « Mademoiselle, veuillez m'excuser. » J'étais debout, derrière le banc, les bras au long du corps. Mon cœur restait serré par l'inquiétude de la minute précédente et l'effroi n'avait pas dû quitter mes yeux car M. de Trézonne, s'interrompant, dit avec quelque vivacité « Mais, mademoiselle, je crains de vous avoir fait peur. » Je murmurai « Non, c'est-à-dire, je pensais au cheminot. » Il est un peu imprudent, en effet, de rester seul ici. La ferme semble déserte. La fille des Bardômes doit y être, je crois. Et puis, je ne suis pas peureuse. Mais cette idée m'est venue tout à coup en entendant marcher derrière moi. J'essayais de sourire, mais un petit frisson me parcourait le corps, sans doute un effet rétrospectif de l'inquiétude que je venais d'éprouver. Et je songeais, que vient-il faire? Pourquoi est-il ici? Je regrette d'avoir été la cause de cette frayeur. Je venais vous rapporter un objet qui, je le crois, vous appartient. Tout en parlant, il plongeait les doigts dans une petite poche de son veston et en retirait un cercle d'or qu'il me tendit. Très surprise, je m'exclamai, « Oh, ma bague !» Je ne m'étais donc pas trompé, il me semblait bien, en effet, avoir vu ce bijou à votre doigt, et quand je l'ai trouvé dans le gâteau de la meulière, j'ai pensé aussitôt que vous l'aviez laissé tomber dans la pâte. J'étais très rouge et je sentais une confusion pénible m'envahir, car dans le regard de M. de Trézonne, je voyais comme une lueur d'ironie que je n'y avais jamais remarquée encore. Je dis en essayant de réprimer le frémissement de ma voix, en effet, elle a glissé de mon doigt tandis que je pétrissais la pâte. Je ne m'en suis aperçu qu'une fois les gâteaux terminés. Mais je ne savais dans lequel se trouvait cette malencontreuse bague. Les Bardômes devaient prévenir les personnes chez lesquelles ils emporteraient afin d'éviter tout accident. Avaient-ils omis de le faire chez vous, monsieur? C'est probable, car mon maître d'hôtel ne m'en a rien dit. Que c'est désagréable! Vraiment, je regrette beaucoup. Oh, mademoiselle, cela n'est d'aucune importance. Je ne me suis même pas ébréché la moindre dent. Il souriait, de ce sourire qui n'adoucissait pas le regard. Des dents superbes montrèrent leur blancheur ivoirée entre les lèvres fortes et rouges. Machinalement, je glissai à mon doigt le petit cercle d'or. J'étais gêné, terriblement gêné par ce regard, dont l'expression changée, me semblait-il, devenait un peu ardente, tout en restant volontaire et légèrement ironique. Je détournai le mien. Le soleil couchant arrivait jusqu'à nous et semait l'herbe de taches lumineuses. Je sentais sur mes cheveux un reflet de cette clarté du soir, je le voyais sur mes mains nerveuses, distraites, et sur la bague que je faisais glisser le long du doigt d'un geste inconscient. Un long silence passait entre nous. Un peu de brise frôla le feuillage des pommiers et les taches de lumière se déplacèrent sur l'herbe du clos. Puis la voix de M. de Trézonne s'éleva, nette et calme. Il paraît toujours agréable d'entendre compter Podane et d'admirer une robe couleur du temps. De nouveau, nos yeux se rencontrèrent. Je vis distinctement, cette fois, dans les siens, l'ironie à peine voilée sous l'ardeur lointaine du regard. Mes joues brûlèrent plus fort. Que voulait-il dire? Est-ce qu'il aurait pensé que j'avais laissé tomber cette bague volontairement dans le gâteau dessiné au château, comme Podane? Cette idée me pénétra d'une confusion telle que la parole me manqua d'abord. Mais je me ressaisis aussitôt et ripostai en osant le regarder bien en face. Si cette petite mésaventure rappelle par quelque côté le comte de Perrault, elle n'en est pas moins pour moi fort désagréable, vous pouvez en être certain, monsieur. Il laissa passer quelques secondes avant de répondre. Mais j'en suis persuadée, mademoiselle. puis il s'inclina en ajoutant « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. » Je balbutiai quelques mots, je ne sais quoi, peut-être un remerciement. Il remit son chapeau et s'éloigna. Je le vis disparaître hors du clos, vers la cour. Alors je me détournai, je ramassai d'un geste machinal la petite cloche de paille blanche garnie d'un ruban noir qui avait glissé tout à l'heure de mes genoux quand je m'étais levé. Mon visage restait brûlant, mon cœur était comme oppressé par un émoi craintif, une surprise éperdue. Qu'était-ce donc, cette expression que je venais de voir dans le regard du châtelain ? Elle ne m'était pas tout à fait inconnue. Je l'avais remarquée dans les yeux de Marc Bordet quand il s'attachait sur moi. Mais comme elle paraissait tout autre chez M. de Trézonne, comme elle venait de me faire frissonner. Était-ce de la joie ou de l'effroi qui me tenait là, palpitante, les yeux mi-clos ? Je ne savais. Je cherchais à rassembler mes idées, à me persuader que j'étais folle, que j'avais rêvé, que jamais cette lueur d'admiration passionnée n'avait passé dans les yeux superbes, les yeux fiers et lointains. Mais oui, c'était une sotte imagination de ma part. À force de vivre dans une atmosphère où s'exerçait le prestige du châtelain de la Bouteillerie, j'en arrivais, moi aussi, à me forger les plus sottes idées romanesques. Vraiment, j'avais bien besoin de tant blâmer Angélina, car j'étais aussi ridicule en m'imaginant que M. de Trézonne... Je secouai les épaules dans un mouvement d'impatience contre moi-même, car je venais de m'aviser tout à coup que cet étranger occupait beaucoup trop ma pensée depuis quelque temps. Je le connaissais bien peu, mais il y avait en lui une puissance qui vous prenait, vous dominait. En songeant ainsi, je m'en allai vers mon logis lentement. Le soleil s'abaissait derrière la vieille maison. Quand j'entrai dans le salon, il éclairait encore les fenêtres, ouvertes sur le jardin silencieux. Je m'approchai du seuil, je respirai l'air tiède qui sentait le tilleul. Mes mains se serraient contre ma poitrine. Je souffrais, j'étais folle, j'avais je ne sais quoi. Je murmurai. « Voyons, Gilette, voyons, à quoi penses-tu » Et puis je me mis à pleurer nerveusement. Je m'appuyai au chambranle d'une porte-fenêtre et les reflets du soleil couchant me caressèrent le front, les cheveux. En abaissant mes yeux, je les voyais sur le crêpe bleu de ma robe couleur du temps. Il m'avait comparé à la princesse du conte. Il avait cru que je l'imitais avec préméditation. À cette seule pensée, je rougissais encore. L'avais-je convaincu de son erreur ? Je l'ignorais, j'aurais voulu savoir. Une abeille bourdonna près de moi, frôla mes cheveux, tourna un instant dans la clarté légère du soir. Un peu d'air agita les feuilles du tilleul, ploya les tiges des tournesols dans le petit parterre. La senteur multiple des champs, des fleurs, de la terre m'environna. Je m'appuyai plus fort au mur décrépit. Ma pensée inquiète, désemparée, mon cœur triste et lourd, s'en allait vers celle qui m'avait quitté, vers ma mère au doux visage, aux yeux tendres. Et je songeais « Comme elle me manque, comme je suis seule !»